I got news for you, buddy. We're going to win the game. I guarantee it.
Vous êtes sur le podcast de la Zone Payante. Merci d'être là chaque semaine. C'est un plaisir de vous retrouver, Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette. Steph, es-tu prêt?
Je t'écoute.
Semaine 10. Hey, moi, ça a été affreux. 8 bons choix la semaine passée. C'est beaucoup de upset pour prendre une expression consacrée.
Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été facile. On se pétait les bretelles un peu plus dans les dernières semaines, là, mais là, retomber sur terre un peu. Ça va être une leçon de sagesse et de modestie. Moi, j'ai eu un gros 7 en 13 la semaine passée. Pas yob. Mais tu sais, j'ai changé à dernière minute. Moi, un choix, j'avais pris les Chargers dans l'émission. Puis au dernier moment, je me suis ravisé. J'ai mis dans le journal les Falcons. Donc, je le compte dans mes mauvais picks. Fait que pour un total de 87 cette saison, 64% de réussite. Là. Ça s'en venait bien, ça rebaisse un petit peu. On va essayer de se reprendre.
Bon, tant mieux. On va essayer de se reprendre cette semaine. Mais ça devient. C'est pas facile cette semaine encore. Là. On va commencer par le premier match là, qui s'est terminé il y a deux semaines, les deux équipes en prolongation et qui ont un rematch cette semaine, jeudi, entre les Falcons et les Panthers. Les Panthers qui reçoivent les Falcons négligés par 3, donc.
Ouais, ça, c'est tellement le genre de match embêtant parce qu'il est pas. L'enjeu est pas énorme. Bon, les Falcons. On peut dire qu'ils se battent encore pour la tête de la très mauvaise division sud. Mais j'y crois pas trop. Par contre les Panthers, pas le choix de croire en eux. On sait pas trop c'est qui pour l'instant qui va être le corps arrière du côté des Panthers. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ce match-là. Je préfère quand même la situation chez les Falcons, un très bon jeu au sol. Je vais y aller avec eux autres, mais sans grande conviction.
Le retour de Cordarrelle Patterson. Hey, on l'a-tu vu pareil la semaine passée? Moi, je suis vraiment... À chaque fois qu'il est sur le jeu, on dirait que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue en plus.
Ouais, il court pas... avec une bonne hargne, honnêtement. C'est le fun à voir. Là.
Il est revenu en forme. Puis je pense que ça va paraître cette semaine. Victoire des Falcons. Félicitations à tous ceux qui l'ont gardé sur le banc pendant toutes ces semaines qui étaient blessés avec leur fantasy. OK, les Seahawks. Écoute, ils s'en vont jouer en Allemagne, Tom Brady.
Ben oui.
Et ils sont négligés, là. C'est Tom Brady et les Buccaneers qui sont favoris pour ce match-là. Par deux, tu vas me dire, mais quand même.
Ah, ben écoute, c'est un autre.
On sous-estime encore Gino.
Un autre match embêtant, oui. Ben, j'ai l'impression que ça va y coller aux fesses toute l'année. Là. Ça va être, cette semaine, ça va tomber, puis peut-être que ça tombera jamais, là, finalement. Écoute, c'est de l'exotisme à son meilleur. Tom Brady en Allemagne, à Munich. Un match à 9h30 le matin, là, si vous l'oubliez. Ça serait drôle. Tom Brady, une petite stat amusante, pourrait devenir le premier corps arrière à gagner un match dans 4 pays. Parce qu'évidemment, il en a gagné quelques-uns aux États-Unis, on le sait. Mais il a gagné aussi en Angleterre et il a gagné au Mexique. Donc, Tom Brady, sa légende internationale qui pourrait se poursuivre. J'ai l'impression que ça va être le cas. Moi, je vais favoriser les Buccaneers dans ce match-là. J'ai aimé vraiment la fin de match des Bucs. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, un déclic. Il y a encore beaucoup d'erreurs avec cette équipe-là, des passes échappées. Là, ça n'a aucun sens. C'est l'équipe probablement qui échappe le plus de passes. Surprenant, là, considérant la qualité des receveurs qu'il y a là, mais c'est le cas. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a vu un peu le Tom Brady des beaux jours. Je ne sais pas si c'est juste une séquence ou s'il y a vraiment une petite amorce vers quelque chose de plus beau. Mais je vais y aller avec la confiance de leur côté. J'ai l'impression que le gain en fin de semaine passée va les avoir boostés. Donc, Buccaneers, une victoire très serrée.
La fin de match. C'est écrit dans le ciel, là, mais comment on peut tous dans son salon savoir que Tom Brady va attaquer le centre sur son premier jeu, après ça, va prendre ce qu'on lui donne, puis il va s'approcher assez pour faire une passe de toucher. Je veux dire... Comment que les Rams ont pu laisser autant d'espace sur le premier jeu quand il restait 40 secondes? Là?
C'est dur à comprendre, honnêtement.
Tout le monde savait qu'il allait faire ça. En tout cas, je peux pas croire que ça s'est réalisé encore, mais ça a été la seule séquence lucrative des Buccaneers dans ce match-là. Et j'ai pas l'impression que c'était les vrais Buccaneers en fin de match. Je pense plus que les Rams, la défensive était dégoûtée de retourner sur le terrain. Ils l'ont dit d'ailleurs.
Ouais, Jalen Ramsey qui a parlé de ça, il dit on n'avait plus d'affaires sur le terrain. Là. Il a questionné un peu.
Cooper Kupp là, qui glisse alors qu'il aurait pu aller chercher le premier jeu. Vraiment, là, une fin de match d'une équipe très chambranlante, les Rams. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que les Buccaneers vont être plus les Buccaneers de la première et de la deuxième demi que celui du dernier jeu.
Intéressant.
Victoire de Gino.
Intéressant, c'est le fun comment tu l'amènes. Hâte de voir ce match-là, honnêtement. Ça va valoir la peine dimanche matin là, d'ouvrir la TV.
Je pense que c'est la première fois, ou presque, je prends les Seahawks cette année, là, malgré qu'ils ont 6 victoires. C'est la preuve qu'à un moment donné, faut rentrer dans le Geno bandwagon. Les Bills, favoris par 7 points. 7 par plus d'un touché, en fait, 7.5 contre les Vikings. Ça t'étonne pas un peu?
Oui, au sens où les Vikings sont toujours impliqués, comme je le mentionnais dans les matchs serrés. Fait que j'ai l'impression que gang ou pair, ils vont être capables de donner un match aux Bills. Là, après, ben, tout dépend de l'état de santé de Josh Allen. Là, c'est plate à dire, mais pour moi, c'est clair que Josh Allen joue, je favorise les Bills. Josh Allen joue pas, je favorise les Vikings. C'est aussi simple que ça. C'est pas la même équipe du tout avec Case Keenum, là. Même si j'ai quand même du respect pour lui comme réserviste, là, c'est un joueur quand même de qualité, qui a fait de bonnes choses dans la NFL. Je suis pas convaincu qu'il peut aller battre les Vikings comme Josh Allen pourrait le faire. Bon, c'est ça, comme je le mentionnais tantôt, il y a une question de confiance qui est pas encore là par rapport aux Vikings, même si je suis bien content de leur début de saison. Il y a beaucoup de matchs qui me convainquent pas. Ils ont vraiment besoin de... Imagine qu'ils battent les Bills avec Josh Allen. Là, ça va vraiment changer le narratif. Honnêtement, là, c'est ce qu'il faut en fin de semaine, mais c'est une mission très difficile. Pour te donner une idée, son favori, tu dis par quoi?
7.5.
Kirk Cousins, quand son équipe est négligée par 6 points ou plus dans sa carrière, une victoire, 14 défaites. C'est dans ce temps-là que souvent c'est difficile. C'est une victoire qu'il faudrait qu'il aille chercher, mais que j'ai pas la conviction qu'ils vont le faire.
Ouais, moi aussi, je suis un peu à la même place que toi. Si c'est Josh Allen, victoire des Bills. Si c'est Case Keenum, victoire des Vikings. Jaguars contre les Chiefs de Kansas City. À Kansas City, là, ça va être un petit peu plus facile. Les Chiefs sont favoris par 10 points. Ça pourrait être même plus. Mm-hmm. Mais, les Jaguars, peut-être qu'ils ont convaincu avec une bonne performance la semaine dernière.
Ouais, les Jaguars, le problème, c'est quand il y a une bonne performance, souvent...
Ça suit pas.
Ils ont de la misère à répéter deux bons quarts de suite, encore moins deux bons matchs. Là. Puis les Chiefs, tu rentres dans la zone de l'année où ils sont invincibles. À leurs 10 derniers matchs en novembre sont 10-0. À leurs 14 derniers matchs en décembre sont 14-0. Fait qu'ils perdent pas en novembre, ils perdent pas en décembre. C'est là que ça se règle, les saisons, là. Donc, t'as beau commencer avec une fiche. Tu sais, des fois, les Chiefs, l'an passé, rappelle-toi, c'était 5-3 ou je sais pas trop. On savait plus. Ils sont-tu en perte de vitesse? Puis là, on se pose des grandes questions. Novembre, décembre arrive. Bang! Ils battent tout le monde. Donc, j'ai l'impression qu'on va encore assister un peu au même phénomène cette année, l'attaque qui va être de mieux en mieux rodée. Donc, victoire des Chiefs.
Oui, victoire des Chiefs, moi aussi. Pas grand-chose à dire là-dessus, à part que les Jaguars, avec Doug Peterson, ils présentent jamais la même équipe, par exemple. Fait qu'on peut toujours être surpris, mais j'ai pas l'impression qu'on va l'être en fin de semaine, surtout pas à Casey.
J'aime le fait qu'il donne beaucoup le ballon à Travis Etienne, honnêtement. Oui. Depuis qu'il a pris le contrôle du champ arrière, là, tu sais, j'avais rien contre James Robinson, mais là, depuis que c'est le cheval dans le champ arrière des Jaguars, il montre de très belles choses.
Les Lions de Détroit s'en vont à Chicago pour affronter celui qu'on pensait que c'était un mauvais choix, mais là, hey, on se dit, je pense que les Jets auraient pris Justin Fields maintenant à la place de Zach Wilson si le repêchage était à refaire.
Moi, je disais souvent que j'aimais pas ce que les Bears faisaient avec Justin Fields, tu sais, qui demandait d'être un corps arrière traditionnel. Depuis quelques semaines, ils ont ouvert vraiment leurs horizons. Justin Fields, en ce moment, qui est un des très bon corps arrière de la NFL. C'est aussi gros que ça. Il a tenu tête aux Dolphins la semaine passée. Il est spectaculaire. J'ai l'impression que les Lions pourront pas trouver de solution là, pour le contrer cette semaine.
Moi aussi, même s'ils sont favoris seulement par 3 points, parce que les Lions restent qu'ils en donnent pour leur argent. Là, ils sont, c'est une équipe qui réussit à mettre des points au tableau. Mais face à Justin Fields puis Chase Claypool, là, qui s'est vite intégré dans le mix à Chicago, je pense aussi que les Bears vont remporter le match. On s'en va à Miami. Les Browns reçoivent les Dolphins reçoivent les Browns et leur ancien corps arrière, Jacoby Brissett.
Ouais, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. C'est pas la plus chaude, les plus chaudes retrouvailles, là, disons. Là, on le mentionne, c'est intéressant. Là,
mais c'est comme la semaine passée, là, on n'a pas mentionné que Kirk Cousins et Tyler Heinicke les deux jouaient contre leur ancienne équipe. Là, mais...
Et voilà, ben oui. Donc c'est ça. Pour en revenir à ce match-là, ben écoute, la seule chance que les Browns peuvent gagner ça, c'est de s'imposer au sol parce que évidemment, tu contrôles l'horloge puis tu sors l'attaque explosive des Dolphins du terrain le plus longtemps possible. Est-ce qu'ils peuvent le faire? T'sais, ils ont les atouts, certainement, donc ça va jouer là. Est-ce que les Dolphins peuvent arrêter le jeu au sol? Moi, je vais miser sur le fait que oui, mais ça me fait peur. Il y a un potentiel d'upset de ce côté-là, honnêtement. Mais les Dolphins à la maison vont protéger là, leur avance. Je pense qu'ils vont se doter d'une avance rapidement puis que ça va devenir plus difficile pour les Browns de courir avec la balle. Donc, victoire des Dolphins.
La défensive des Dolphins, malgré plein de bons joueurs très poreuse là, depuis plusieurs matchs, accorde énormément de points, beaucoup de verges. Puis ça, depuis le début de la saison, là, le début de la saison, ils ont eu des victoires contre les Bills, mais ils ont donné le ballon comme 40 minutes aux Bills. Ça va pas bien, là. Assez que Josh Boyer, le coordonnateur défensif des Dolphins, est pas mal pointé du doigt. Mm-hmm. Même qu'il y en a qui disent qu'il finira peut-être pas la saison. J'ai l'impression que si les joueurs veulent jouer pour leur coordonnateur défensif, c'est dans cette game-là. Et que la défensive va lever son jeu d'un cran. Puis ça se peut là, qu'à un moment donné aussi, on ait de la difficulté à l'attaque à un match ou deux. Là. Et il va falloir que la défensive donne des matchs à Miami. Et j'ai l'impression que ça va être en fin de semaine. Victoire des Dolphins, mais moi aussi, je suis pas comme sûr de mon coup à 100%. Là. Le match contre les Bears, ça aurait très bien pu finir. Une victoire des Bears à 35-32 en fin de match. Là. Il y a eu des appels.
Ben, t'as vu comment les Bears ont pu courir le ballon aussi contre eux. Là.
Mais le corps arrière, c'est sûr.
Quand tu joues contre les Browns, il y a toujours cette inquiétude-là. Je te dis pas que c'est le club le plus menaçant de la Terre, mais quand ça marche bien au sol pour les Browns, là, ils peuvent tenir n'importe quelle équipe. Là.
Les Giants sont favoris par 7 points à domicile contre les Texans.
Oui. C'est pas mal ce qui va arriver, je pense. Là. Je vois pas nécessairement une bonne volée, là, mais les Giants, je vois pas comment ils perdent ce match-là. On parlait de Barkley un peu plus tôt. Les Texans qui sont atroces pour freiner le jeu au sol, c'est là que ça va jouer victoire des Giants.
Oui, moi aussi, victoire des Giants. J'ai pas l'impression que les Texans sont capables de rivaliser avec le jeu au sol ou aérien. Pas assez de points, victoire des Giants. Les Steelers, Kenny Pickett reçoit, est-ce que c'est notre ami Andy Dalton qui va être derrière le centre pour les Saints cette semaine après une performance, mettons, coup-ci, coup-ça lundi?
Je peux pas croire, là. Il est temps que ça arrête un peu, cette expérience-là. Qu'est-ce qui va amener au présent et au futur des Saints? Moi, je le vois pas. À un moment donné, coudonc, tu te retournes vers Jameis Winston. Il doit être à 100% en santé depuis tout le temps là, qu'il s'est blessé. Un élément qui est intéressant, je voyais des commentaires du côté des Steelers cette semaine. On s'attend à ce que TJ Watt revienne au jeu. Ça, c'est un élément très important. Vraiment important.
Ils ont plus de revenir au jeu, je pense, avant le congé, mais ils ont préféré attendre le congé. Puis là.
Compte tenu de l'état de leur saison, à quoi bon là, risquer son retour avant le congé? Tu sais, à un moment donné, je peux comprendre. Là, je pense qu'ils n'ont pas des grandes aspirations cette année, mais. C'est un retour qui risque de fouetter ça, vraiment, les troupes. Ça donne de l'énergie. Tu sais, c'est le fun de revoir un joueur comme ça qui se donne à la cause, qui va se débattre. Là, lui, 2-6, là, dans sa tête, c'est pas fini. Là. TJ Watt, c'est un joueur comme ça. Je pense qu'il va donner une bonne motivation aux Steelers qui vont être capables d'aller chercher ce match-là. C'est à la maison. Je dirais peut-être pas la même chose si c'était dans le Dôme en Nouvelle-Orléans. Mais à Pittsburgh, je vais y aller, moi, avec une victoire des Steelers.
Bon, on ne se chicanera pas encore. Moi aussi, les Steelers.
Voilà.
Je pense aussi que la performance des Saints lundi nous a montré que ça, c'est une équipe qui est en déclin. Là. Je vois pas. Ils vont gagner des matchs là, d'ici la fin de la saison. Là. Je pense qu'Alvin Kamara n'a pas dit son dernier mot. Là. Mais quand c'est le temps de regarder pour lancer le ballon, c'est terrible. Victoire des Steelers avec Kenny Pickett qui va en faire juste assez avec Najee Harris pour gagner le match au sol. Les Broncos, ça aussi, un spread qui m'étonne. Seulement, c'est une égalité virtuelle parce que les Titans sont à la maison et favoris par un placement à 3 points.
Ouais, il doit avoir une incertitude encore par rapport au corps arrière. Est-ce que Ryan Tannehill peut revenir au jeu? Est-ce que ça va être encore Malik Willis? Tu vois à quel point il est limité, Malik Willis, là? On ne lancera pas de pierre là parce que c'est un corps arrière recru, un choix de troisième ronde. On disait déjà avant le début de la saison qu'il était pas prêt à jouer dans la NFL, qu'il fallait l'amener avec patience dans cette ligue-là. C'est un joueur qui jouait à Liberty là, sur la scène universitaire dans NCAA. C'est pas comme si c'était un programme monstre. Est-ce que c'est ça qui joue là, dans le spread? Peut-être. On le saura plus vers la fin de la semaine. Mais, tu sais, je continue de penser que Malik Willis ou Tannehill, c'est le roi Henry qui va traîner le club sur ses épaules encore une fois. Les Broncos, excellente défensive, oui, mais dans les deux derniers matchs, ils ont été troués pas mal là, par le jeu au sol. 191 verges, 155 verges à leurs deux derniers matchs. Je pense que Derrick Henry regarde ça, puis tu lui donnes le ballon, puis tu raides avec lui.
Ouais, moi aussi.
Donc, victoire des Titans là, grâce à Henry.
Puis je pense que Malik Ellis aussi est capable de courir un peu au sol. Ils vont varier. Ça va être suffisant pour remporter un match à bas pointage. Victoire des Titans. Les Raiders contre les Colts. Ouf. Deux équipes en déroute.
Ouf!
Qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là à Las Vegas avec un nouvel entraîneur du côté des Colts qui, il y a deux semaines, disait que les Raiders étaient horribles sur tout
le temps. Ça, c'est drôle que tu le mentionnes. On se rappelle son tweet le 30 octobre. « Raiders look horrible. » Et là, il va certainement se faire parler de ça.
Ça, c'est piné dans le vestiaire. Là.
Ah ben, certainement. Là, ils ont beau dire « Non, là, nous autres, on lit pas les journaux, on regarde pas la TV, on va pas sur les médias sociaux. Ouais, » voyons donc. Là. Ouais, penses-tu? Puis sinon, si personne l'a fait par un malencontreux hasard, il y a quelqu'un dans l'organisation qui va épingler ça sur le billboard dans le vestiaire, c'est sûr et certain, oublie ça. Maintenant, tu regardes ces deux équipes-là qui s'en vont nulle part, puis tu te dis, ah, ben c'est un match qui est prenable pour les Colts. Ouais, mais c'est un match qui est prenable aussi pour les Raiders. Ça, c'est tout le temps embêtant. Il n'y a rien qui se passe du côté des Colts avec Sam Ellinger à date. C'est pas une bonne expérience. Tandis que du côté des Raiders, ben écoute, tu vas me dire qu'il n'y a rien qui se passe non plus, mais pendant certains moments des matchs, c'est juste qu'ils sont pas capables de faire un match de 60 minutes. Ça fait trois fois cette saison qu'ils se font remonter de 17 points ou plus. C'est atroce. Mais au moins, il y a des moments où tu vois que l'attaque est capable de prendre le contrôle. Donc, je vais miser sur eux, mais je pense que ça va être un match décousu, un peu tout croche, puis qu'il n'y aura pas une grosse différence de points à la fin de la journée.
Ah ouais, moi j'ai l'impression que ça va être un blowout. Je pense que les Raiders, là, ils sont...
Ils sont dus, là.
Ouais, ils sont dus. Grosse victoire contre les Colts, qui, eux, vont être désorganisés, ça, j'ai pas de doute. Jonathan Taylor, on sait pas s'il va jouer ou pas, mais même quand il joue, il est un facteur zéro cette année. Alors, j'ai pas l'impression. Puis Josh Jacobs a connu un mauvais match, en tout cas un match plus discret cette semaine. Mais très bonne saison malgré tout. Victoire des Raiders par deux touchés minimum.
Ça se pourrait que je te reparle des Colts un petit peu plus tard, là, comme oui, ça.
D'accord. Parlons des Cowboys contre les Packers cette semaine à Green Bay. Mike McCarthy, le grand retour à Green Bay dans le
oui.
Stade du conducteur.
J'ai hâte de voir la réaction de la foule, j'espère. Puis, connaissant, je suis allé deux fois à Green Bay, c'est des gens très aimables, très polis. Je pense qu'il va avoir une bonne réception. C'est quand même un coach qui leur a gagné un Super Bowl, qui qui a connu énormément de succès. Oui, la fin, c'était moins drôle un peu. Il y avait des conflits avec Aaron Rodgers. Mais je peux pas croire que les gens de Green Bay vont huer Mike McCarthy, qui a quand même accompli beaucoup pour l'organisation. Il y a une rue à son nom là-bas, autour du stade. Bien hâte de voir la réaction. Puis, cela dit, ils seront pas contents, les gens de Green Bay, parce que j'ai vraiment l'impression que la défense des Cowboys va prendre le contrôle de ce match-là. Les Packers, qui ont tout simplement pas de receveur. Tu sais, je vois pas là, à qui Aaron Rodgers va lancer le ballon. La seule chance, encore là, c'est de courir. Les Cowboys qui donnent quand même 135 verges au sol par match. Donc, si tu peux y aller avec Aaron Rodgers, là, il y a A.J. Dillon qui répond pas présent depuis le début de la saison. Il est très décevant. Mais Aaron Jones, c'est-à-dire, fonctionne bien. C'est la petite fenêtre des Packers est là, mais j'y crois pas. Moi, je vais y aller avec les Cowboys.
Non plus Aaron Jones la semaine passée.
Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, il y a des questions. Il semble qu'il devrait jouer, là. Mais il y a quand même des questions à se poser sur son état de santé. Moi, j'y vais avec les Cowboys dans cette rencontre-là. Là, la défense va faire la différence encore une fois.
Ouais, victoire des Cowboys, moi aussi. Ils sont favoris par 5 à l'étranger. Puis franchement, si Aaron Rodgers n'est pas capable de faire des points contre Détroit, ils n'en feront pas contre les Cowboys. Les Cards. Ils s'en vont affronter les Rams.
Écoute, c'est ça aussi, on parle de deux équipes en déroute. Là. Il y a beaucoup de duels comme ça cette année, des équipes qui jouent du mauvais football. On arrive et on se dit, c'est quelle la moins pire des deux qui va gagner? Pas le fun dans ce temps-là. Dans un cas comme celui-là, moi j'y vais avec l'équipe qui a le numéro de l'autre. Puis dans ce cas-ci, ben c'est les Rams. Ils ont gagné 11 leurs 12 derniers contre Arizona. Cliff Kingsbury qui semble incapable de trouver des solutions quand il joue contre les Rams. Fait que ça va faire la différence. Mais encore une fois, on n'a pas l'attaque des Rams qu'on avait par le passé. Dans cette domination-là contre les Cards, c'était souvent une attaque qui allait marquer beaucoup de points. Cette année, très difficile. On trouve vraiment pas de solution à qui on lance le ballon en dehors de Cooper Kupp. Ça, c'est bien, bien, bien difficile. Cam Akers, qui est revenu dans le champ arrière la semaine passée, impact zéro. Il semble avoir perdu toute explosion. Sa blessure au tendon d'Achille qui a visiblement laissé des séquelles importantes. Il faut trouver une solution au sol. Il faut trouver une solution à qui lancer le ballon autre que Cooper Kupp. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais compte tenu de l'état des Cardinals, qui est vraiment pas mieux, ben j'y vais avec les Rams.
Hey, les Rams, ça fait depuis le début de l'année que je dis que...
ils vont se réveiller.
Qui est bien coaché, qui ont des bons joueurs. Je voyais la NFL qui ont fait... je sais plus si c'est la NFL, mais qui ont fait une promo pour le Super Bowl de cette année. Puis il n'y a même pas de joueurs des Rams. Il y a comme 7 joueurs d'équipe, mais aucun du champion actuel en titre.
Intéressant.
Fait que quand c'est rendu que même la NFL te voit plus dans les dans sa pancarte de promotion pour le Super Bowl de cette année. Pourtant, hein, tu sais, je veux dire, ils ont les mêmes joueurs. Puis Matthew Stafford joue pas si mal. Tu sais, là, il est conservateur, là, mais.
La ligne offensive va changer. Le visage vraiment de cette équipe-là, c'est pourri cette année. Il y a eu des départs, le départ à la retraite d'Andrew Whitworth, et ça a fait mal. C'est pas imaginable. Il y a eu des blessures aussi. Là, ouais, j'ai l'impression qu'il est confortable dans une bonne position à télé où il gagne un salaire très intéressant sans manger de volet à chaque semaine.
Ouais.
Ça va être dur de le sortir de sa chaise.
Écoute, je vais prendre les Rams. C'est la dernière fois là, que dans un match serré, là, je prends les Rams. S'ils me convainquent pas cette fois-ci, parce que c'est quand même un bon test. Là. Ils sont pas ridicules, là, Arizona. Hurts fonctionne bien. Diop fonctionne bien. Ils ont un
Kyler Murray, lui.
Kyler Murray. Ouais. C'est pour ça que je vais avec les Rams. Mais c'est là. Là. Il faut qu'ils nous montrent là, qu'ils se préparent la semaine et qu'ils sont capables de faire des points. Là.
Ouais.
On s'en va dimanche soir avec les Chargers contre les Niners. Les Chargers, là, ils gagnent de peine et de misère encore une victoire là, à bracadabrante.
Une victoire à la Chargers. Hey, pour ceux qui n'ont pas vu le. Non, pour ceux qui se demandent pourquoi ils disent ça, ils n'ont pas vu le jeu nécessairement. Hey, Incroyable. Les Chargers échappent le ballon. Les Falcons récupèrent. On se dit, bon, ben ça y est, les Falcons vont aller écouler les dernières minutes, aller gagner ce match-là. Mais le gars qui récupère le ballon, le plaqueur qui récupère le ballon du côté des Chargers, échappe le ballon à son tour. Donc, deux échappés sur le même jeu.
Non, mais il échappe le ballon, là, mais sans raison, là.
Non, il a échappé tout seul, là. C'est un fantôme, là, qui a fait échapper. Écoute, c'est ça. Les Chargers, depuis des années, ils perdent de façon hallucinante, puis ils gagnent de façon hallucinante. C'est jamais plate, un match avec eux autres. Il se passe toujours un scénario surnaturel. Mais dans ce match-là, ben moi, j'ai pas le choix de miser sur les Niners. Il y a de plus en plus de blessés qui reviennent au combat. C'est une équipe là qui, plus ces blessés-là reviennent, je pense qu'on va voir des Niners dominants en deuxième moitié de saison. Je peux me tromper, évidemment, là. Mais j'ai l'impression que cette équipe-là nous a pas montré encore son meilleur visage, que plus les gars vont revenir, plus on va voir peuvent être capables de tu sais, les Niners peuvent être capables de quoi. Puis ça commence cette semaine. Je vais y aller avec une victoire des 49ers.
Je suis pas quelqu'un qui doute de Justin Herbert, là. Mais me semble que c'est pas lui qui est en train de montrer qu'il y a une grosse progression entre ses années de carrière, là. C'est comme si...
Ben, à date, oui, mais cette année, c'est plus difficile. Mais je trouve que son année 1 et 2, il avait montré beaucoup de progression.
Mais il y avait une très bonne première saison. Il avait établi le record de verges. Tu sais, c'était comme incroyable comme première saison. La deuxième saison, il a maintenu. Puis là, mais il est pas mauvais non plus cette année, là, tu sais, mais il maintient.
Il n'y a pas de receveur. Keenan Allen qui est blessé depuis le début de l'année. Mike Williams qui commence à rater des matchs aussi. C'est pas évident sa situation pour vrai, là.
Non, non, c'est pas évident, mais c'est pour ça que je dis, c'est pas, il est pas mauvais, là, tu sais, il est pas, mais il fait rien de magique, là, tu sais, là, puis il est pas le corps arrière, tu sais, qu'on se disait, wow, top 5, incroyable, choix au repêchage, là, divin. Je crois encore qu'il a un excellent bras, il est calme, dans la pochette, il fait des choix intelligents, pas de problème, là. Mais, tu sais, il s'en va contre Jimmy Garoppolo, puis les Chargers sont négligés par un toucher.
Oui, mais je le vois pas comme un duel de corps arrière nécessairement. Non, les Niners, c'est toute une défensive. Tu sais, t'as pas le choix de considérer ça dans ton équation. Mais je comprends où tu vas en venir. Tu sais, Herbert, c'est vrai là, que c'est pas une saison phénoménale. C'est vrai que par rapport à l'année passée et à l'année d'avant, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer certaines choses.
Il y a un jeu au sol aussi, là, les Chargers. T'sais, il ne peut pas dire « Ah, j'ai pas de jeu au sol. » Bref. Puis il ne s'est pas frappé tant que ça. Il y a des questions. Là,
tu te questionnes, oui.
Oui, puis je trouve que quand les preneurs au livre, les Chargers sont dans les séries en ce moment. C'est une équipe de séries.
Mm-hmm.
Puis ils ont une meilleure fiche que les Niners, qui sont favoris par 7 points. Bref, je vais prendre les Niners aussi, là, pour toutes ces raisons-là. Là, je pense que les Niners, surtout si Deebo Samuel joue, il n'y aura pas vraiment de problème à battre les Chargers. On n'aura pas une fin abracadabrante. Lundi, les Commanders contre les Eagles à Philadelphie. Est-ce qu'on va avoir un match? Selon les preneurs au livre, ça va faire finir par plus que 10 points.
J'ai l'impression que ça va être plus serré que ça. Je pense pas que ça va être un classique, un grand match. Je vois les Eagles l'emporter pour brûler le punch tout de suite, là, même s'il n'y avait pas vraiment de punch, je pense. Mais les Commanders qui sont capables de tenir tête, on l'a vu là, contre les Vikings, ils sont capables de tenir une attaque aérienne efficace, un petit peu en laisse, limiter autant que possible les gros jeux. Je pense que les Eagles sont supérieurs aux Vikings, là, devraient donner un meilleur match encore aux Commanders. Mais on l'a vu, ça n'a pas nécessairement été facile, puis je pense que ça sera pas si facile que ça non plus lundi. Donc j'y vais avec les Eagles, moi, par un toucher.
Ben, les Eagles aussi, là, il n'y a pas grand chose à dire, là, à part que les Eagles, en plus, ont tous leurs joueurs en santé. Là. C'est ça aussi là, qui est incroyable pour les Eagles. Ils ont comme une saison de rêve, à moins que je me trompe. Là, mais...
Non, c'est vrai. Il y a eu quelques petits bobos ici et là, mais ça, il y en a partout. Des cas majeurs de blessures, là, on peut dire qu'ils ont été épargnés, les Eagles.
Fait que, t'sais, une équipe épargnée là, par les blessures, alors que c'est pas le cas des Commanders. Moi, je pense que les Eagles, tant qu'ils vont être en santé, ils vont perdre une game, mais ça sera pas cette semaine. Victoire des Eagles. Mais voilà, c'est ce qui conclut notre semaine 10, nos prédictions. On espère qu'on va avoir une meilleure semaine que la semaine 9, Stéphane.
Oui.
Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour faire le bilan de ça. Restez là après la pause. C'est l'heure d'aller au bar.